Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 23 avril 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Alors, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis la semaine dernière? Il y en a eu quelques-unes.
Oui, assez mouvementé, effectivement, en fin de semaine dernière, incluant lundi, là, cette semaine, les marchés ont été quand même passablement négatifs. Par contre, renversement de situation hier. Donc, on a eu d'abord le président Trump là, qui a mentionné bon, qu'il n'y avait en fait aucune intention de congédier le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. C'était un peu ce qui avait fait baisser les marchés là, la semaine passée. Là, c'est bon, déjà, on a assez d'incertitudes avec les tarifs. Si en plus, on doit congédier le président de la Réserve fédérale, là, ça vient augmenter l'incertitude. Le marché n'a pas du tout apprécié. Finalement, hier, Trump, en fin de soirée, disait non, j'ai jamais eu l'intention de le congédier. Et puis, on a également Scott Bessent, qui est le Treasury Secretary, là, donc il a mentionné concernant la guerre tarifaire avec la Chine, que bon, les niveaux de tarifs présentement imposés sur la Chine ne sont pas soutenables à long terme, que ça va fort probablement assez rapidement baisser beaucoup. Et donc ça l'a fait quand même rebondir les marchés hier, plus de 1000 points sur le Dow. Et encore ce matin, là, donc suite au commentaire de Trump concernant Powell, une autre hausse quand même assez importante. Donc ceci dit, cette semaine, sans compter la journée d'aujourd'hui, les marchés américains demeurent en territoire négatif, en baisse de 2-3% pour la semaine. Ça va à peu près s'effacer aujourd'hui là, si la tendance se maintient. On demeure quand même en baisse depuis le début de l'année de 11% sur le S&P 500. On est à moins 14 du sommet récent. Du côté du Nasdaq, on demeure en baisse de 20% du sommet récent. On est en baisse de 15% depuis le début de l'année. Le Canada, donc notre petit marché mal aimé là, depuis quelques années par rapport au marché américain, cette semaine en hausse de 1% depuis le début de l'année, en baisse de 1,8%. Demeure en baisse de 5,2% du sommet. Là. Donc, ça s'améliore, la situation va mieux. Qu'est-ce qui vient un peu aussi changer la donne? Le dollar canadien par rapport au dollar américain est en hausse de 6%. Donc, quand je vous mentionne que le S&P 500 est en baisse de 11 depuis le début de l'année, ça, c'est en dollars américains. Je rajoute un moins 6 à cause de la devise par-dessus ça. Donc, on a vraiment le dollar américain par rapport à l'euro en baisse de 12% cette année. Donc, tu sais, vraiment, là, il y a eu des mouvements significatifs, non seulement sur la bourse, mais dans les devises également. Au niveau des taux d'intérêt, beaucoup d'aller-retour, là, mais on reste quand même relativement stable. Mais d'une journée à l'autre, ça monte de 0,2, ça rebaisse de 0,2, ainsi de suite. Donc, sur les taux d'intérêt des Canada 10 ans, on est à 3,2 présentement. On était à 3,10 la semaine passée. On attend des résultats financiers. Là, on est dans la semaine, les 2-3 prochaines semaines, ça pourrait être un peu plus volatile en raison des résultats financiers des entreprises. On a eu Tesla hier soir. Pas vraiment beaucoup de clients qui détiennent ça, là, mais quand même, c'est un titre qui est suivi par les marchés. Aujourd'hui, qui concerne plus nos clients, là, Waste Connection, Aecon Group, deux des entreprises là, que beaucoup de clients détiennent, vont annoncer les résultats après la fermeture des marchés ce soir.
Bien, puis c'est des compagnies qui sont détenues aussi par les fonds qu'on détient.
Exactement, oui.
Bien, merci beaucoup, Martin. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet qu'on a déjà couvert sur le balado de finances comportementales. Je sais que c'est un sujet que tu apprécies beaucoup.
J'adore.
Ouais. Oui. Et on revient là-dessus parce qu'on croit que le moment est propice, étant donné le contexte des marchés actuels. Donc, on est vraiment testé de ces jours-ci. Donc, nous allons parler de billets qui nous appauvrissent.
Oui.
On ne parle pas ici de fraude, d'escroquerie ou de mauvaises décisions financières imposées par l'extérieur. On parle vraiment de ce qu'on fait à soi-même, inconsciemment, par peur, par habitude ou simplement parce qu'on est humain.
Ouais.
Commençons par une vérité. Les biais cognitifs de tout le monde en a,
ouais.
Même les économistes, donc les gens qu'on écoute à la télé, les grands
même
savants.
Même toi et moi.
Et même toi et moi. C'est normal. Notre cerveau humain est vraiment programmé pour nous protéger Et cette programmation mentale qui nous aide à survivre à tous les jours devient un véritable obstacle pour les investisseurs.
Ouais.
Donc, il faut en être conscient. Et aujourd'hui, ben, on va passer à travers quelques biais qui sont soulignés en finance comportementale.
Ouais.
Donc, est-ce que tu peux nous parler du biais de statu quo ou le confort de ne rien faire?
Ouais, donc c'est un biais cognitif. Puis d'abord, là, d'où vient là, ces biais cognitifs-là de finance comportementale? Là, c'est Daniel Kahneman et Amos Tversky qui ont, dans les années 70, là, commencé à étudier le fait. Avant ça, on pensait toujours que l'être humain était toujours rationnel et on prenait toujours les meilleures décisions. Donc, on s'est rendu compte, en fait, que ce n'est pas le cas. Donc, super fascinant. Si vous êtes intéressé, on a des livres à vous suggérer. Le biais de statu quo, ben, en réalité, c'est que les gens, par peur de prendre une mauvaise décision, souvent vont préférer ne pas prendre de décision. Donc, laisser tout ça en place, ça a l'air moins compliqué que de dire, OK, ben, je vais vendre tel titre, je vais changer tel truc, je vais changer d'emploi, je vais déménager. Donc, bien souvent, on préfère rester dans sa petite zone de confort, tu sais, puis pas faire de changement. Donc, ça, c'est un biais cognitif qu'il faut être, il faut en être conscient. Que oui, des fois, prendre des décisions, c'est difficile, mais il faut le faire, puis de ne rien faire juste parce que c'est plus confortable d'ignorer le problème,
c'est
pas une meilleure solution.
Mais des fois, on peut prendre la décision de ne rien faire, et c'est une décision en soi. Donc, actuellement, si les gens font pas de changement à leur portefeuille, vendent pas tout, ça, c'est une décision en soi.
Ouais.
Mais de rien faire, pas par décision, mais parce qu'on a peur.
Ouais.
Donc, c'est très subtil.
Donc, là, par exemple, j'ai déjà, je me souviens, un investisseur avait une obligation province de Québec, qui reste deux ans à courir, le rendement était relativement faible, puis je suggérais, ben, tu sais, vends-le pour remplacer par une obligation, mettons, de 5 ans, un taux plus élevé. Ah non, laisse tout ça de même, tu sais. Même si c'était clairement à son avantage de le faire, il préférait juste pas faire de transaction que se casser la tête à faire la transaction. Fait que ça, c'est un exemple de biais de statu quo.
Bien illustré. Y a un autre biais, c'est l'aversion aux pertes ou mieux vaut rien gagner que de perdre.
Ce que les chercheurs se sont rendus compte, c'est que l'être humain n'a pas le même niveau de réaction face à une perte qu'à un gain. Donc, quand je subis une perte de, mettons, 10$, je suis vraiment plus fâché que je suis heureux quand j'ai un gain équivalent de 10$. Donc, on l'a déjà vu encore là dans des cas réels où les clients ont toujours ce qu'on appelle le high water mark, là, t'sais, le plus haut niveau de que leur portefeuille a atteint. Ça devient comme la base. Puis là, ben, quand ils voient la valeur baisser, ils disent « j'ai perdu 10 000, 20 000, peu importe ». Et un client ou un investisseur, bien souvent, qui a une aversion aux pertes, va préférer un placement garanti. Donc, on place 100 000, puis là, au bout de 5 ans, j'ai 130 000. Puis là, il est très heureux, il a 130 000. Plutôt que de voir son portefeuille passer de 100 000, monter à 160, puis rebaisser à 140. Il ne veut pas subir cette baisse de 20 000 $ entre 160 et 140, même si, au bout de 5 ans, il y a quand même plus d'argent. Et donc, ça, c'est vraiment l'aversion aux pertes. C'est aussi réel quand on a des titres en portefeuille, on n'aime pas vendre à perte. Puis des fois, quand on se trompe, ça peut arriver, la situation change, puis j'ai une entreprise, puis ça va pas bien, ben des fois, il faut prendre une perte, puis l'être humain n'aime pas admettre qu'on a fait une erreur. Puis si on passe notre temps à toujours vendre les titres à profit dans le portefeuille, puis à ne pas vendre les titres en perte, parce qu'on n'aime pas ça prendre des pertes, ben en bout de ligne, qu'est-ce qu'on a dans le portefeuille? Ben, un paquet de mauvaises entreprises qu'on refuse de vendre parce qu'on est en situation.
Puis la réalité, c'est que toi et moi, on vérifie toujours nos billets. Hein? On s'en parle beaucoup,
ouais.
On se coach beaucoup entre nous autres même. Et comme ça, on est mieux placé pour coacher les clients pour ce genre de billets.
Oui, bien, puis en fait, t'sais, la première étape vers le rétablissement, c'est d'admettre qu'on a un problème. Hein? Ça, c'est donc, vraiment, d'être conscient que les billets existent, d'être conscient de nos propres biais,
ouais.
Ça va nous aider peut-être à les reconnaître puis à les éviter.
Donc, le biais de présent, maintenant, vaut mieux que plus tard.
Ouais, donc on va toujours avoir le goût de privilégier une gratification immédiate. Donc, comment ça se matérialise, là, pour, qui fait que ça nous appauvrit de faire ça?
Ça, c'est comme quand je magasine.
Ben, j'ai un 5000 $, je vais-tu en voyage ou je le cotise dans mon REER? Ouais. C'est sûr que dans le REER, je vais en bénéficier dans 20 ans. Là, c'est long. Tandis que si je vais en voyage tout de suite, donc ça, c'est un exemple de billet de présent. Ça peut être aussi la différence entre un REER puis un CELI. Puis ça, c'est intéressant parce qu'en en réalité, quand je cotise dans mon REER, bon, j'ai un retour d'impôt immédiatement, donc ça, tant mieux, j'ai une impression de richesse. Par contre, je vais devoir repayer l'impôt au moment du retrait. C'est pas automatique que le REER est toujours préférable à un CELI. Des fois, dans certains cas, étant donné la taxation au moment du décaissement, des fois, ça peut être préférable de ne pas cotiser à son REER, de cotiser plutôt dans son CELI, de ne pas avoir de retour d'impôt. Mais quand je vais être à la retraite, je vais retirer de l'argent sans impôt. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai droit à des crédits fiscaux, des crédits sociaux supplémentaires, des remboursements de TPS, du supplément de revenu garanti. Donc, ça, vraiment, là, ce billet de présent-là, là, il est assez difficile à éviter. On est tous sujets à ça. Moi aussi, si tu me donnes le choix entre avoir 1 000 $ tout de suite puis 1 200 $ dans 5 ans, peut-être prendre le 1 000 $ tout de suite.
Exactement. Et moi, c'est le billet, celui-là, là, c'est le billet que j'aime le plus puis que je vois en moi-même souvent, ouais. et dans les autres. Le billet de confirmation. On entend ce qu'on veut croire.
Puis présentement, je pense qu'on souffre tous de ça. On écoute les nouvelles, on a un certain niveau de peur, on se fait une idée de comment mon portefeuille va évoluer en raison des nouvelles. Puis là, ben, si je suis négatif dans ma tête face à mon portefeuille, tout ce que je vois aux nouvelles, c'est juste le négatif. Puis et toutes les nouvelles positives, je vais aller comme les repousser en disant « Ah non, tu sais, ça compte pas ». Et ça, c'est vrai dans bien des choses. Là. On en regarde une entreprise, on pense qu'elle va monter, on voit juste le positif. Donc, faire attention, le billet de confirmation, là, c'est un billet que tout le monde souffre. Peu importe, je vais acheter une maison, je visite la maison, parce que je l'aime bien, je vois juste le positif, puis je vois pas que le solage est craqué, puis que les fenêtres sont vieilles. T'sais. C'est un petit peu ça.
Exactement. Et un autre, l'effet de récence, ce qui vient de se passer et ce qui va arriver. Celle-là, elle est bonne, surtout en ce moment.
Surtout en ce moment, donc on a l'impression, bon, on est dans un épisode de guerre de tarifs, puis là, bon, ça va, tu sais, cette fois-ci, c'est différent, puis là, ça va toujours continuer comme ça. Puis, tu sais, ramenons-nous durant la pandémie, on est là, on était quasiment convaincus qu'on aurait une pandémie à toutes les années. Ramenons-nous durant la crise financière, pendant des années, on avait peur, tu sais, c'est quoi la prochaine affaire qui va nous tomber sur la tête? Finalement, il n'y a rien qui nous est tombé sur la tête. Je me souviens très bien aussi durant les attaques du 11 septembre, où pendant, tu sais, longtemps, on s'attendait à ce qu'il y ait d'autres attaques terroristes significatives, tu sais, rapidement. Parce que ça venait d'arriver, c'était pour se reproduire à nouveau rapidement et tu sais, de façon consécutive. C'est pas la réalité, c'est pas ce qui vient d'arriver, là, c'est pas la chose la plus importante, c'est pas différent des fois d'avant, souvent même ça a l'air plus important parce que c'est récent, mais en réalité, si on compare bien froidement avec les événements précédents, on se rend compte que ce qui est arrivé récemment, c'est pas si pire que ça finalement, puis c'est probablement moins pire que ce qui est arrivé dans le passé.
Puis moi, qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est quand on lit dans les journaux, les nouvelles, puis je pense juste à ce matin, les choses que j'ai lues, la réalité, c'est que ces billets sont partout. Les journalistes en parlent. Je pense que de leur côté, ils le réalisent peut-être c'est une façon d'attirer les lecteurs. Je suis pas certaine où ils sont pas...
En partie, probablement.
Donc, on en a parlé un peu, mais ouais. Comment contrer ces billets?
Ben, donc, le point numéro un, c'est ce que je mentionnais. Il faut d'abord reconnaître qu'il existe. Donc, tu sais, puis qu'on n'est pas immunisé, ni toi, ni moi, Sarah, et personne n'est immunisé contre ces billets-là. Donc, de reconnaître qu'on a un problème, c'est la première étape vers le rétablissement. Donc, d'abord, assurez-vous, quand on a une opinion, ben, d'essayer de trouver, de contrer notre opinion. Tu sais, si on veut, par exemple, contrer le billet de confirmation, ben, au lieu d'essayer de prouver qu'on a raison, essayez vous-même de prouver que vous avez tort dans votre opinion. C'est une bonne façon de le faire. Établir un plan. Donc, si on veut éliminer un petit peu les billets, mais quand on a un plan financier, quand on a... T'sais, on se trace un chemin puis on suit ce plan-là, ben justement, ça vient éviter d'avoir des émotions à travers ça.
Puis moi, je vois ça beaucoup avec les gestionnaires de fonds. Ils ont un processus. Et ouais. à chaque fois qu'on les écoute parler, ils disent toutes, à peu près, on revient à notre processus. Ouais. Donc, quand on a un biais, la façon de se auto-vérifier, c'est revenir au plan ou à notre processus.
Exact. Créer des automatismes, donc... On sait que les gens sont un peu craintifs d'investir présentement. Bien, ceux qui investissent de façon périodique, automatique, prélèvement, 1 000 $ par mois, tous les mois, bien, même quand ça va mal, bien, ça nous permet d'acheter plus de titres quand ça va mal. Puis quand ça va mieux, bien, on en achète un petit peu moins. Donc, créer des deux automatismes, c'est une bonne façon d'éviter là, d'être victime des biais
cognitifs. Puis on a énormément de clients qui font ça. Puis on vous parle des biais qui sont ressortis, mais la plupart de nos clients sont très, très disciplinés ouais. dans leur approche et nous écoutent. Ouais. Et la réalité, ils ont déjà des paiements qui sortent. Les clients ont fait leur contribution, CELI, cette année, malgré tout, ils ont investi leur argent.
Exact. Puis en dernier lieu, ben s'entourer. Donc, tu sais, on est là pour vous aider. On est là pour vous entourer, vous encadrer dans votre pratique. On n'est pas immunisé contre les biais cognitifs. On n'a pas moins peur que les clients face aux événements. Par contre, depuis, tu sais, en 25 ans de carrière, on a appris à comment se comporter malgré la peur et malgré les biais cognitifs. Donc, d'avoir un bon conseiller, un bon gestionnaire de patrimoine qui vous aide à essayer de sortir un peu de ces biais cognitifs-là, ça peut certainement aider.
Puis, on fait la même chose que les gestionnaires de fonds. On revient à notre processus, on revient à notre formation. Donc, on a les peurs, mais on a aussi une capacité, une formation qui nous aide à, ouais. à revenir vers comment se comporter. Bien, merci beaucoup, Martin. Pour tous nos clients et partenaires, Mathieu, Michel, Martin et moi sommes toujours disponibles. Si vous avez des billets puis vous voulez en discuter, on est là pour vous. On est là aussi pour discuter de vos objectifs financiers, personnels, communiquer avec nous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.